Les loyalistes et le Rassemblement appellent à nouveau à constituer dans les plus brefs délais un gouvernement d'intérêt général. L'État n'a versé qu'une partie des 27 milliards d'aides d'urgence. L'avertissement des forces de l'ordre quant à l'usage sur la voie publique de véhicules customisés pour les fêtes. La pratique est interdite. Les contrevenants s'exposent à des amendes et à des mesures exemplaires. François Bayrou attendu demain à Mayotte, un déplacement qui s'annonce très tendu pour le nouveau Premier ministre qui sera accompagné du ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Les zones d'ombre persistent après le crash d'un avion le jour de Noël au Kazakhstan. L'hypothèse d'un missile antiaérien tiré par la Russie est de plus en plus évoquée par les spécialistes. Le sport et le tennis, et le coup d'envoi demain du BNC Tennis Open sur les courts du Mentoro. Les joueurs sont déjà à l'entraînement pour le plus grand plaisir des fans de la petite balle jaune. Et puis la voile et la cinéhobarde qui se poursuit. Les Calédoniens à bord de Pulpito pointent à la 41e place du général. 75 bateaux sont encore en course. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. 4 jours après la chute du 17e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après 2 journées particulièrement tendues au Congrès, l'actualité politique fait la une ce soir. Les loyalistes et le Rassemblement indiquent dans un communiqué publié en fin de matinée que l'État n'a pas versé la totalité des 27 milliards d'aides d'urgence promis à la Nouvelle-Calédonie. Michael Juneski.
Le 26 décembre, les loyalistes et le Rassemblement ont alerté le Premier ministre sur les graves conséquences du non-versement de cette aide, peut-on lire dans ce communiqué. Un soutien financier crucial qui était conditionné à la mise en œuvre de plusieurs réformes, et notamment celle de la TGC qui n'a pu être adoptée dans les délais prévus en raison de la chute du gouvernement Mapu. Lors des premières discussions avec l'État, peut-on également lire dans ce communiqué que, je cite, « Il nous avait été indiqué que la totalité des 27 milliards ne serait pas versée ». Face à cette annonce, et je cite encore le communiqué, nous avions immédiatement engagé des actions auprès des plus hautes instances nationales. Ces démarches ont abouti, je cite de nouveau le communiqué, à une décision de l'État de débloquer 18,4 milliards afin d'éviter la faillite des collectivités calédoniennes dans l'attente de l'installation d'un nouvel exécutif local. Les loyalistes et le Rassemblement, qui après avoir remercié le gouvernement national pour cet effort, indiquent qu'il est important, et je cite de nouveau, de souligner qu'en raison d'un blocage politique regrettable, 9 milliards ont été perdus. Ces fonds, acquis juste avant la censure du gouvernement Barnier, manqueront cruellement pour garantir la pérennité des dispositifs de soutien aux Calédoniens, peut-on encore lire dans ce communiqué. Face à cette situation, écrivent enfin les loyalistes et le Rassemblement, nous lançons de nouveau un appel à la responsabilité. Il est impératif de constituer, dans les plus brefs délais, un gouvernement d'intérêt général capable de conduire les réformes nécessaires pour assurer le financement et la viabilité de la Nouvelle-Calédonie. Fin de citation de ce communiqué des groupes Les Loyalistes et le Rassemblement.
Les véhicules qui circulent sur les routes durant les fêtes avec des systèmes de sonorisation surpuissants, une mauvaise habitude qui a la vie dure et qui reste interdite. La police nationale avertit, les contrevenants s'exposent à des mesures exemplaires, Michael.
Les véhicules redécorés pullulent en cette période de fête de fin d'année. Chacun ses goûts en termes de décoration, mais une chose est sûre, il y a certaines pratiques qu'on ne peut pas se permettre sur la voie publique avec une voiture en circulation dans le trafic routier, des équipements parfois interdits et aussi des comportements à risque qui se multiplient ces derniers jours et contre lesquels les forces de l'ordre resteront intransigeantes. Marjorie Ghisoli, la nouvelle directrice territoriale de la police nationale.
C'est vrai qu'on se rend compte depuis quelques temps là, qu'il y a une reprise de conduite et de comportements inappropriés et puis délinquentiels pour certains et qui posent bien évidemment des problématiques de sécurité routière mais aussi de bruit et de nuisances. On multiplie les contrôles, on multiplie en soirée et en nuit, non seulement les rappels mais surtout les interventions, les interpellations là où certains croient que la route leur appartient et qu'on peut faire du drift, on peut mettre de la sono à fond sans qu'il n'y ait, je dirais, aucune conséquence. Or, des conséquences, il y en a pour les riverains, il y a des conséquences pour les automobilistes. Et c'est vrai que depuis plusieurs jours, on fait de l'interpellation, des gardes à vue, on saisit du matériel. Bien évidemment, sous l'autorité du parquet, on poursuit ces conducteurs qui, encore une fois, prennent la route pour leur propriété.
Des systèmes de sonorisation qui font d'une voiture un véhicule. véhicules à risque sur la route ainsi que des luminaires qui peuvent s'avérer dangereux. Si customiser son véhicule, comme on dit, n'est pas interdit, le respect du code de la route reste l'affaire de tous.
Customiser tant que ça respecte les règles, je dirais, et que ça ne pose pas de problème de conduite. Nous, ce qui nous impacte, ce sont encore une fois ces conduites dangereuses, ces véhicules qui ont des grandes sonos qui font un bruit insupportable pour les riverains quels qu'ils soient. Et puis c'est souvent, malheureusement, accompagné d'une alcoolisation forte. Je rappelle que ce sont des délits de conduire en état d'ébriété, d'avoir des immenses sonos dans les véhicules qui font un bruit insupportable pour les riverains, et que tout ça, sous l'autorité du procureur, ça fait des procédures judiciaires, des poursuites en justice, des passages devant le tribunal, sans oublier qu'on saisit le matériel, qu'on met en fourrière les véhicules qui ne respectent pas les conditions de circulation, confiscation et destruction des matériels qui ont permis de commettre l'infraction. Tout ce qui est, je dirais, contraire au code de la route, parce que les luminaires, les sonos, c'est aussi des moyens de décoration pour certains, mais encore une fois, on ne respecte pas les conditions techniques de circulation des véhicules. Et c'est un vrai rappel que nous serons présents pour faire respecter le droit.
Marjorie Ghisoli, la nouvelle directrice territoriale de la police nationale. Les dispositifs d'éclairage non réglementaires sont également interdits et peuvent entraîner l'immobilisation du véhicule. De nombreuses formes d'éclairage additionnelles qui sont prohibées pour une gêne évidente en circulation au milieu d'autres voitures et le risque de perturbation de la vision pour les autres conducteurs. Les contrevenants s'exposent donc à des amendes ainsi qu'à des mesures exemplaires. Vous l'avez entendu, la police nationale avertit, elle est intervenue sur 4 affaires de ce type en l'espace de seulement 3 jours, des cas ayant occasionné des gardes à vue. Les contrôles vont donc se multiplier durant ces fêtes.
En bref, la gendarmerie lance un appel à témoins. Des faits de caillassage sont survenus sur la RP1 à Saint-Louis, au Mont-d'Or, le 25 décembre dernier. Entre 16h et 17h, une enquête est ouverte pour retrouver le ou les auteurs de ces jets de pierre. Toute personne susceptible d'avoir été victime de ces caillassages est invitée à contacter les gendarmes en composant le 17 et en demandant à être mise en contact avec la brigade de recherche de Nouméa. Les produits frais ont la cote durant la période de fête et c'est une aubaine pour les producteurs. Alors qu'ils ont subi la crise de plein fouet cette année, les maraîchers retrouvent le sourire pour la fin d'année, Mickaël.
Entre les deux fêtes et à l'approche de la Saint-Sylvestre, l'affluence reste constante sur les marchés. C'était le cas encore ce matin au marché de gros de Ducos pour la plus grande satisfaction des producteurs après les perturbations tout au long de l'année 2024.
Oui, ça se passe très bien. Il y a du monde. Surtout que nos bananes sont bio et puis voilà, ça apporte du bien. Une vie saine pour nos clients et pour se régaler avec des desserts de bananes, de différentes recettes avec nos bananes, surtout qu'elles sont sucrées.
Beaucoup de monde entre les deux fêtes, mais beaucoup de produits locaux. On vous propose les produits du terroir et notamment les saucissons de cerf, piment et nature. Ça fait du bien de pouvoir reprendre les activités, surtout après ce que nous avons vécu pendant les événements.
Alors on est entre deux fêtes là, oui, entre la Noël et le jour de l'an, donc beaucoup de réservations et d'achats d'œufs de canne et de coco râpé. La semaine dernière, j'ai vendu 510 coco râpé.
Ça veut dire qu'il y a de la salade thaïsienne en préparation pour les fêtes.
Il y a de la salade thaïsienne puisque j'ai aussi les citrons bio, le pourpier que j'essaie de vendre. Beaucoup de gens ne connaissent pas le pourpier. C'est une plante qui est excellente, hein, et ça accompagne. Ça, si on le fait fleurir, on le met dans la salade thaïsienne, c'est top. Nous, en tant qu'agriculteurs, ce qui a été compliqué, c'est cette grosse période de sécheresse. Les événements ont fait que je suis sur le Boulou Paris, donc toute la plaine de Boulou Paris a brûlé, donc j'ai eu tous les ravageurs qui sont venus chez moi, les lapins, les cochons, les cerfs, une plaie. Mais là, ça va. Les pluies sont revenues, les plantes repoussent et ça germe pas mal.
Et si la clientèle subit aussi les difficultés économiques, elle tient tout de même à s'approvisionner en produits frais et locaux, comme nous l'a dit Claudine Verger, maraîchère au Mont-d'Or et élue à la Chambre d'agriculture et de la pêche.
On est surpris parce que, vu la crise économique qu'il y a dans le pays, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, quoi. Puis là, ce qui nous fait davantage plaisir, c'est qu'on s'aperçoit que les gens apprécient les produits, voilà, qu'ils prennent leur temps, qui est de bien choisir ce qu'ils veulent et tout. Et puis voilà, et puis il y a quand même cette relation clientèle, les clients avec les producteurs, et ça fait chaud au cœur, quoi. C'est très convivial en vérité. C'est génial. Ça donne un espoir, voilà. Et puis on est très content, on a envie de se donner encore plus à fond sur nos exploitations parce qu'on voit que cette clientèle, elle est là, et puis qu'il y a de la demande, et puis qu'elle est en attente d'avoir des bons produits. Hein.
Voilà, une clientèle qui était encore très présente ce matin pour le plus grand plaisir des professionnels du secteur, le marché de Gros de Ducos, qui est désormais ouvert le samedi à dès 5h du matin.
Il est 17h55, vous restez avec nous, on marque une page de pub et on se retrouve dans un instant.
Des problèmes de termites de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation de la lutte anti-termite. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et la suite du journal avec vous, Yannel Sabot.
François Bayrou est attendu demain en fin de journée pour nous à Mayotte, un déplacement qui s'annonce très tendu pour le nouveau Premier ministre. Le 13 décembre dernier, le locataire de Matignon avait préféré se rendre à Pau pour son premier déplacement. Il y avait présidé le conseil municipal de la ville. Un choix qui avait été très critiqué. Sur place, à Mayotte, 15 jours après le passage du cyclone Chido, la situation est toujours très critique. Pour ce déplacement, François Bayrou sera notamment accompagné du nouveau ministre des Outre-mer, Manuel Valls. L'un des objectifs de ce déplacement sera de consulter les élus locaux pour achever la rédaction d'une loi spéciale consacrée à la reconstruction de Mayotte. Écoutez le ministre des Outre-mer.
Nous sommes mobilisés, c'est ce que je veux dire. Je suis conscient que quand ici l'électricité n'a pas été encore mise en œuvre, qu'il manque de l'eau, grande partie de l'habitat qui a été détruit, qu'on est en train de reconstruire aussi déjà des bidonvilles. Moi, je peux comprendre le sentiment d'impuissance. Ça sera long et difficile, complexe, nous le savons. Je pense qu'il faut utiliser ce qui s'est passé, ce drame, en tirant les leçons du passé pour le faire autrement. Je reconnais que c'est difficile.
Et à noter qu'en plus de Manuel Valls, François Bayrou effectuera ce déplacement à Mayotte avec la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Autre ministre au cœur de l'actualité, le nouveau garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui multiplie les annonces quelques jours après son arrivée place Vendôme. Le ministre de la Justice a indiqué hier vouloir mener des opérations place nette dans les prisons. Dans l'actualité également ce soir, la France qui a transmis à l'Indonésie une demande officielle de rapatriement de Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie en 2007 pour trafic de drogue. C'est le ministre indonésien en charge des affaires juridiques qui a révélé cette information. Serge Atlaoui est âgé de 61 ans. Il avait été interpellé en 2005 à Jakarta et les autorités indonésiennes l'avaient accusé d'être un chimiste travaillant pour des trafiquants de drogue. À l'étranger, les zones d'ombre persistent après le crash d'un avion de la compagnie Azerbaijan Airlines. Le crash s'est produit au Kazakhstan le jour de Noël. L'accident avait fait 38 morts et plusieurs dizaines de blessés. Et alors qu'une enquête est en cours, l'hypothèse d'un missile anti-aérien tiré par la Russie est de plus en plus évoquée par les spécialistes aéronautiques. L'appareil allait atterrir et il se retrouvait dans un environnement de guerre électronique. Les explications de Nicolas Tonev pour Europe 1.
Il faut imaginer la situation le jour du drame au-dessus de la capitale tchétchène. Des drones ukrainiens en approche pour les neutraliser. Un déchaînement de moyens électroniques, du brouillage spécifique dirigé vers ces drones, le brouillage des moyens de communication et des signaux GPS qui affectent du coup l'appareil d'Azerbaijan Airlines en approche. L'avion désorienté sort de la trajectoire prévue. Est-ce que cela trouble les tireurs russes ou l'Embraer 190 se retrouve-t-il sur la trajectoire d'un missile? En tout cas, l'affaire finit tragiquement parce que Moscou laisse l'avion civil s'approcher de la zone de guerre, selon Xavier Tittelmann, spécialiste aéronautique militaire.
La difficulté, c'est que la Russie a laissé son espace aérien ouvert tout en sachant qu'il y avait des attaques sur son territoire. Et la Russie, aujourd'hui, c'est elle qui est coupable de ne pas avoir le sérieux aéronautique en émettant des interdictions de survol pour les avions civils.
Quand le missile anti-aérien est lancé, il atteint immédiatement plus de 2000 km/h. Un avion civil ne peut pas manœuvrer assez vite pour l'éviter. Seule solution, ne pas se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Azerbaijan Airlines a tiré les conclusions du drame en décidant de suspendre ses vols vers sept villes russes potentiellement dangereuses pour ses passagers.
Nicolas Tonev pour Europe 1. Toujours à propos de la guerre en Ukraine, plus de 1000 soldats nord-coréens auraient été tués ou blessés, selon Washington. Pour la Maison-Blanche, ces militaires dépêchés par Pyongyang sont considérés comme de la chair à canon. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait confirmé que des soldats nord-coréens blessés étaient morts en Ukraine après avoir été fait prisonnier. Il est 18h01, on va marquer une dernière pause dans ce journal à suivre l'actualité sportive et la météo.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La suite du journal et tout le sport, Lionel Sabot.
Et l'événement sportif de cette fin d'année en Calédonie, c'est le BNC Tennis Open, un tournoi international qui débute demain. En attendant, les joueurs continuent de s'entraîner sur les 6 terrains du Wentoro, où nous retrouvons Léo Fichou.
Et oui Lionel, depuis le début de la semaine, les habitués du club de la Ligue de Nouvelle-Calédonie croisent de nouveaux visages. De nombreux joueurs professionnels sont arrivés il y a quelques jours déjà pour s'adapter à la chaleur et continuer de s'entraîner. Des entraînements qui s'intensifient à l'approche des premiers matchs. Enzo Cuoco, finaliste en 2023, est de retour et il espère forcément faire mieux cette année.
Ouais, bien sûr, après c'est l'objectif de tout être moi, mais c'est vrai que... Ici, il y a eu un petit goût amer un peu l'année dernière de ne pas pouvoir défendre mes chances à fond et de ne pas aller au bout de la semaine. Donc, on va essayer de corriger ça. Ouais. Je suis en train de me préparer chez moi à l'île Maurice et puis j'ai recommencé une collaboration avec Xavier Le Gall qui est avec moi ici. Donc, des petits changements, mais a priori du positif. J'ai essayé de faire un bon résultat, mais après, il y a l'Open Australie qui arrive assez rapidement. Et puis, nous, c'est un peu le début de la saison. Donc, démarrer sur une bonne note, c'est toujours... Le meilleur augure, ouais.
Et dans le tableau principal, on retrouve des Calédoniens, l'habitué Maxime Chazal, mais aussi le tout jeune Eremana Courte, à seulement 17 ans. Le champion de France dans sa catégorie d'âge a obtenu une wildcard, une invitation. Il disputera son tout premier tournoi professionnel.
Là, c'est quand même incroyable de pouvoir jouer à la maison sur mon premier tournoi pro. En plus, c'est pas un petit tournoi, c'est quand même un gros tournoi. Donc ouais, ça fait plaisir. Ça m'apporte de l'expérience, prendre peut-être aussi un peu plus de plaisir que d'habitude, parce qu'on est à la maison... Alors que d'habitude on est quand même souvent loin, quand on fait les déplacements, etc. J'attends déjà juste de profiter et espérer faire un bon match et jouer contre un très bon joueur, même s'il n'y a que ça. Il y a quelques noms qui font plus rêver que d'autres, c'est sûr, mais par exemple Manarino, Benoît Paire ou Tomic, l'Australien. Mais ouais, sinon n'importe lequel, c'est tous des très bons joueurs.
Eremana Courte qui disputera également le tournoi de double avec Liam Branger, le Niortais dont les parents vivent en Nouvelle-Calédonie depuis une 30aine d'années, connaît bien Nouméa. Il a lui aussi obtenu une wildcard, une invitation, 1408e au classement ATP. Il devra tout de même passer par les qualifications dès demain.
Ouais, c'est un premier challenger pour moi, donc j'ai bénéficié d'une wildcard qualification. Donc, je suis très content de jouer ici et de pouvoir jouer un premier match en challenger. Va falloir que je me qualifie dans un premier temps, mais bon, j'ai joué des très bons joueurs dès le début, donc je suis content de jouer contre ces joueurs-là. Et puis moi, mon objectif, c'est de me qualifier pour pouvoir jouer exactement contre les meilleurs, probablement peut-être un top 100, donc c'est une première. Mes parents, ça fait 3 ans qu'ils sont ici, donc ils connaissent pas mal de gens qui vont venir me voir jouer, donc je pense qu'au niveau ambiance, on va être servi. Très content de pouvoir jouer ici Voilà, il fait chaud, il fait beau. J'aime bien l'atmosphère ici, j'aime bien les gens. Donc franchement, je suis très content. Ouais, ça va être vraiment spécial pour moi.
Et notez donc dans vos agendas, le tirage au sort de ce BNC Tennis Open a lieu dès ce soir au Méridien. Les premiers matchs de qualification auront lieu demain.
Léo Fichou depuis les installations de la Ligue calédonienne de tennis au Wentoro pour suivre ce BNC Tennis Open qui débute donc demain. La voile à présent dans la région et nous continuons, Michael Juneski, de suivre l'aventure de Pulpito, le navire calédonien toujours engagé dans la 79e édition de la célèbre Rolex Sydney Hobart.
Et oui, à bord de Pulpito MLS SCD, la fatigue se fait ressentir, mais nos représentants sont toujours en course alors que beaucoup de navires ont déjà été contraints à l'abandon. Vous avez pu entendre sur notre antenne le skipper David Tréguier depuis le début de son périple. Les Calédoniens qui sont désormais à quelques 237 000 nautiques de la ligne d'arrivée, soit environ 438 km d'Hobart. L'équipage se trouve dans la mer de Tasmane, dans le détroit de Bass. Il pointe à la 41e place du classement global sur 75 navires encore en course. 33e en IRC, 6e en IRC 3 et à la première place dans la catégorie Sydney 38. Ça, c'est pour les 6 bateaux identiques engagés. Tous les autres appartiennent à des Australiens. Un autre Calédonien est présent en Australie pour cette épreuve. Philippe Mazard, l'ancien président du Cercle Nautique Calédonien. Il est juge dans la compétition et donc mobilisé à temps plein pour suivre l'épreuve. Il nous a fait part de son témoignage.
C'est toujours très excitant d'être dans l'organisation et dans le jury de cette Sydney Hobart, parce que ça reste une course magnifique, une course d'envergure, une des plus grandes courses du Pacifique Sud. Course prestigieuse, difficile, et là on l'a vu encore récemment. Il faut un jury pour départager des situations conflictuelles entre des concurrents ou quelquefois apporter ce qu'on appelle des compensations de temps. Un bateau par exemple qui va se dérouter pour aider un autre bateau qui est en danger, on lui accorde des bonifications de temps en fonction du temps qu'il aura passé à se dérouter et à chercher ou aider quelqu'un en danger.
Philippe Mazard, Calédonien présent, savoir qu'il y a un équipage calédonien qui est toujours en course et qui mène d'ailleurs une très belle course. Vous les suivez un peu plus attentivement, on va dire ?
Ah ben je les regarde, oui, je dois pas avoir de parti pris bien sûr, mais je les regarde bien évidemment. Il y a d'ailleurs d'autres équipages français dans la course qui marchent aussi très bien. Ils ont réuni un très bel équipage pour cette course et en plus au classement en temps compensé dans leur catégorie donc en IRC 3, ils sont tout à fait bien. Ils sont là, je regarde le classement, ils sont 6e. Hein. Donc c'est une très belle performance, compte tenu surtout de la difficulté de la course, puisqu'il y a eu près d'une trentaine d'abandons. Donc voilà, la course a été dure. Bravo à cet équipage de Nouvelle-Calédonie.
Voilà pour ce témoignage de Philippe Mazard du Cercle Nautique Calédonien, membre du jury sur cette 79e édition de la Rolex Sydney Hobart. Nous en sommes désormais à 2 jours et 5 heures de course.
Allez, un petit mot de sport en métropole avec le coup d'envoi ce soir de la 13e journée du Top 14. 4 matchs au programme. À minuit, Pau recevra Vannes. 2 heures du matin à suivre Bayonne-Castres. À 4 heures, Clermont recevra Montpellier. Puis à 7h05, à ne pas manquer le choc entre Bordeaux-Bègles, le leader, et Toulon qui est troisième. Cette 13e journée se terminera lundi matin pour nous avec les 3 derniers matchs à suivre: Racing 92 Lyon, Perpignan La Rochelle et Toulouse Stade Français. Allez, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous, et bien pas de vigilance particulière. Tout d'abord pour cette nuit, sur le nord-est, la pointe nord et Belep, des averses faibles persisteront. Sur l'ouest, la nuit finira par être bien étoilée. Sur les autres régions, le ciel restera plus nuageux, mais dans l'ensemble, le temps demeurera sec. Le vent s'orientera est-sud-est de la pointe nord-est. À Belep, il soufflera entre 10 et 15 nœuds. Ailleurs, il mollira plutôt autour des 10 nœuds, voire 5 nœuds sur l'ouest. Sur le nord-ouest, des accélérations seront toutes même possible dans l'axe de certaines vallées. Les températures minimales de ce soir seront stables avec 16 à 24 degrés. Demain matin, sur le nord-est, des nuages accompagnés d'ondées s'attarderont au début de matinée. Sur l'extrême sud et marées, le ciel sera passagèrement nuageux avec quelques gouttes possibles sur l'île des Pins. Ailleurs, un beau soleil l'emportera. Sur l'ouest, le vent d'est soufflera de 5 à 10 nœuds, puis les brises de secteur sud de l'ordre de 10 nœuds s'établiront. Ailleurs, l'alizé d'est-sud-est soufflera autour des 10 nœuds en général et localement entre 10 et 15 14 nœuds sur la pointe nord-est et à Belle-Epe.
Merci Maxime, 18h10, la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour un dernier point sur l'actualité passée. Un très bon début de soirée, à tout à l'heure.
Merci Lionel, à plus tard.